L'émission suivante est également publiée sur notre blog Un héros dans le net. Rendez-vous dans la section commentaires pour joindre la discussion.
Aujourd'hui à l'émission Parole à propos, l'histoire de la théorie de l'évolution. Bonjour, bienvenue à l'émission Parole à propos. Mon nom est Pascal Deneau. Et donc, nous poursuivons avec notre ami Julien qui expose pour nous le survol de l'histoire de l'évolution. Alors, on est entré dans la dernière discussion, dans vraiment ce qui est les événements historiques et les personnages dans l'histoire qui ont mené à la théorie moderne de l'évolution, après avoir retracé jusque dans l'Antiquité comment ces conceptions est arrivée. Alors, Julien, peut-être si tu veux continuer où tu étais rendu la dernière fois dans le transformisme et résumer un peu pour nous là, ce que tu avais dit à ce chapitre.
Oui, c'est ça. Bien, ce qu'on avait vu, c'est que dans les années 1700, il y avait l'idée de la fixité qui était trop radicale et qui faisait partie intégrante de la théorie créationniste, cette fixité-là, qui était l'idée que quand Dieu avait créé les espèces, il les avait créées parfaites. Et il les avait créées fixes, elles ne pouvaient plus changer. Hein, ça venait des principes d'Aristote qui avaient été intégrés là, dans la doctrine officielle de l'Église et dans le monde de la science. Et on a vu une réaction à cette fixité trop radicale dans les années 1700 par le comte de Buffon, hein, qui a publié, qui avait beaucoup d'appui politique, qui était un scientifique influent, qui a amené l'idée du transformisme. Donc, en opposition à la fixité, c'est que les espèces peuvent se transformer en autre chose. Et on a le fameux scientifique Jean-Baptiste de Lamarck, hein, le fameux exemple de la girafe, par exemple, là, à cause que dans sa vie, elle utilise beaucoup son cou. Alors, elle va donner naissance à une progéniture avec un cou plus long. L'histoire, le concept, le caractère acquis durant une vie se transmet à la descendance. Lamarckisme est faux comme concept, mais est quand même la toile de fond de l'évolutionnisme, même encore aujourd'hui. Et donc, je poursuis aujourd'hui avec Robert Grant, qui est un admirateur de Lamarck et qui a été le mentor de Darwin à l'époque où Darwin était étudiant. Donc, Darwin va travailler sur les travaux des espèces marines de Robert Grant. Alors, donc Robert Grant, pourquoi il faut en parler, pourquoi il est important? Bien évidemment, il a passé beaucoup de temps avec Darwin, il a donc eu une influence sur Darwin. Et Robert Grant, lui, a poussé un peu plus loin les idées transformistes de Lamarck et de Erasmus Darwin aussi, le grand-père de Darwin, c'est important de le dire, qui était aussi transformiste, scientifique influent et qui a publié des travaux à cet égard-là. Il va proposer, Robert Grant, va proposer sans aucun fondement scientifique que les plantes et les animaux ont une origine commune, pour vous donner un exemple. Donc, Darwin étudie aux côtés de Robert Grant, subit son influence. Et donc ça, on est dans le temps, nous sommes... Donc, Darwin va ensuite jouir de l'appui de plusieurs scientifiques importants qui vont le mettre en contact avec le capitaine du Beagle. Donc, le Beagle va partir en voyage pendant 5 ans entre les années 1831 et 1836. Et Darwin va partir dans ce voyage-là principalement comme géologue. Il va devenir très célèbre. Ce qui est important de parler pour ce voyage-là, c'est que Darwin part avec le livre « Le principe des géologies » de Charles Lyell. On a vu Charles Lyell dans la dernière capsule
qui nous expliquait les longues périodes de temps là, que la Terre a des millions d'années.
C'est ça, effectivement. Donc, la table est mise pour l'évolution parce que on a besoin de cette baguette magique du temps. Hein. On n'est pas capable de voir que les reptiles se sont transformés en oiseaux. On n'en voit pas des espèces intermédiaires et on voit pas non plus dans le monde présent les espèces se transformer en autre chose. On voit des micro-variations, mais on voit jamais de nouveaux caractères apparaître. Et ça, les scientifiques de l'époque étaient conscients de ça, les transformistes de l'époque. Alors, la baguette magique du temps apportée par ces géologues, James Hutton et Charles Lyell, a été l'ingrédient majeur qui a permis, hein, on a pu se permettre cette espèce de divagation-là, de dire que les espèces pouvaient se transformer, à cause que ce qui est impossible sur une courte période de temps devient peut-être possible sur une très longue période de temps. Mm-hmm. Alors, Darwin va perdre définitivement la foi en 1851 lors du décès de sa fille Annie. Donc, un autre phénomène important dans la vie de Darwin qui va avoir une influence sur ses travaux. Darwin était déjà en proie au doute, hein, parce que lui, pour Darwin, il notait des incohérences dans la nature. Par exemple, quand il a fait ses études sur les espèces marines, il se disait pourquoi des superbes créatures avaient été créées au fond des océans, là où personne ne peut les voir. Il se demandait pourquoi Dieu avait fait ça. Ouais. Il commençait à contester avec Dieu, contester avec la création divine, et donc était vraiment en train de perdre la foi déjà. Alors, on sait tous que qu'est-ce qui a été majeur dans la publication des travaux de Darwin, ça a été les recherches qu'il a fait sur les îles Galapagos. Alors, lui, il a vu sur les îles Galapagos qu'il y avait 13 ou 14 espèces de pinsons apparentés. Et selon les saisons de pluie, hein, il y avait des différences au niveau de la taille et de la forme du bec. Il voyait une espèce d'élasticité dans la grosseur du bec. Donc, quand il y avait des saisons de pluie abondantes, la nourriture était plus molle. Alors, les pinsons qui avaient des becs plus longs et plus minces pouvaient se nourrir et devenaient prédominants. Et dans le cas contraire, ben, c'était les pinsons qui avaient des becs plus durs et plus courts. Alors, lui, il a vu que l'environnement avait un impact sur la morphologie d'une espèce. Et d'où l'idée, donc, de la sélection naturelle. Hein, l'idée que la pression de l'environnement va façonner les caractères morphologiques. Et là, il faut s'entendre sur qu'est-ce qui était vraiment observé. Hein. C'est que Darwin n'avait pas observé l'apparition du bec, l'apparition des ailes, l'origine des plumes. Il était en train de voir l'élasticité d'un caractère qui existe déjà. Mmh. Et on sait que aujourd'hui, on le sait, là, il y a eu plusieurs études, les scientifiques sont retournés sur les îles Galapagos, et on sait aujourd'hui que quand les saisons de pluie reviennent à la normale, le bec des pinsons revient à ce qu'il était. L'élastique, on ne peut pas étirer l'élastique jusqu'à temps que le bec devienne autre chose qu'un bec.
Non, l'élastique va péter, comme on dit.
Oui. Effectivement, si le bec se transforme trop, l'espèce ne survivra pas. Le bec est là pour sa fonction, il a sa fonction, et les oiseaux donc ont été créés comme ça. Et la morphologie du bec, des ailes, des plumes, de tout ce qui existe sur un oiseau sont toutes très, très fortement imbriquées l'un dans l'autre. Donc, effectivement, l'élastique a sa limite. Et c'est seulement que 20 ans plus tard, fortement influencé par tout l'environnement transformiste, l'environnement de révolution contre l'autorité de l'Église, c'est seulement 20 ans plus tard que Darwin va réétudier les notes qu'il avait prises sur les îles Galapagos pour enfin postuler une théorie de l'évolution par sélection naturelle. Il avait omis de prendre en note les lieux de capture des spécimens d'oiseaux. Il va se fier aux notes d'autres membres de l'équipage du Beagle. Il va conclure que l'isolement géographique a causé des différentes espèces. Quand on étudie les notes de Darwin et ses conclusions, on sait qu'elles étaient basées quand même sur des notes qui n'étaient pas nécessairement très rigoureuses. Mais tout ça n'était pas du tout suffisant pour venir renverser le créationnisme, pour venir renverser la fixité. Il a fallu que Darwin puisse avoir encore d'autres appuis. Et l'appui est venu de deux scientifiques très influents. Un biologiste britannique du nom de Thomas Henry Huxley, qui a vécu entre 1825 et 1895. On dit de lui qu'il est devenu l'ami de Darwin, surnommé le Bulldog de Darwin. C'est un farouche défenseur de l'évolution. Il va faire plus que Darwin lui-même pour promouvoir l'évolution. Ça va être lui qui va utiliser des arguments paléontologiques. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va donner naissance au premier icône de l'évolution qui est utilisé jusqu'à aujourd'hui, juste pour vous dire à quel point les arguments de l'évolution sont vieux et démodés. Son passé date, publié par Huxley en 1876 et 1879, l'évolution des chevaux. Alors, il va regarder la grosseur des fossiles qu'on a, la grosseur des fossiles de chevaux qu'on a à travers plusieurs strates géologiques. Il va comparer les dents, il va comparer le nombre de doigts dans les pattes. Et il va conclure qu'il y a eu une évolution. Pourquoi? Parce que le cheval le plus vieux mesure 40 cm et le plus gros mesure 1,6 cm. Aujourd'hui, il existe dans le monde des espèces, une variété de cheval qui mesure 43 cm. Mm-hmm. Puis on a des chevaux qui vont jusqu'à 2 mètres. Ça existe encore aujourd'hui à travers la même espèce.
Ouais.
Une variété au niveau de la grandeur. Mm-hmm. Même chose au niveau du nombre de doigts sur les pattes.
Et ça, ces schémas-là, c'est toujours dans les manuels scolaires.
C'est toujours dans les manuels. Alors, cette variété qu'on voit dans le registre fossile, elle n'est pas liée au temps et à l'évolution parce qu'elle existe aujourd'hui au sein de la même espèce. Donc, c'est comme de dire que l'humain a évolué à partir des chimpanzés en comparant la grandeur ou la grosseur du cerveau, etc., alors qu'on sait qu'il y a des humains beaucoup plus petits dans des tribus africaines qui sont quasiment aussi grands qu'une personne qui est atteinte du nanisme. Alors, ces différences de forme et de grandeur n'amènent rien du point de vue des origines. Alors, mais ça, c'est très important parce que c'est un icône qui a passé le temps et qui a convaincu la communauté scientifique, a convaincu tous les étudiants dans les manuels de biologie jusqu'à aujourd'hui.
Mm-hmm.
Un autre élément important, un autre personnage très important, Ernst Haeckel. C'est un biologiste et philosophe allemand. C'est un partisan convaincu, promoteur de la théorie de l'évolution. Une autre personne qui était beaucoup plus fanatique de l'évolution que Darwin lui-même. On dit de lui qu'il est le père de l'écologie, hein, et membre de 90 académies, sociétés savantes. Il a publié une multitude de travaux sur l'écologie. Il a fait des travaux majeurs, des travaux importants. Et lui, il en est venu à forcer la plume pour faire ce qui va devenir probablement une des plus grandes fraudes en science. Il a produit l'argument embryologique. Il a pris 7 classes de vertébrés, grenouilles, poules, poissons, jusqu'à l'humain, et il a tracé les embryons au stade précoce de l'embryogenèse, et ensuite à un stade moyen, à mi-chemin, et ensuite dans un stade complètement formé de l'embryon. Et il montre que les embryons des vertébrés de différentes classes, comme celui de l'humain, celui de la grenouille, celui du poisson, seraient tous identiques au début. Après ça, il se différencie un petit peu dans le développement de l'embryon et devient à la fin à sa forme différente qu'on connaît. Pour lui, c'est comme essayer de résumer l'évolution dans le développement embryologique. Alors ça, c'est un argument qui a eu un éclat majeur. C'est une fraude totale. Michael Richardson, dans le magazine Pour la science, en 1998, disait « Haeckel a donné une vision fausse du développement embryonnaire, mais sa supercherie va plus loin. Les dessins d'Haeckel contiennent tant d'erreurs qu'il ne s'est certainement pas contenté de produire de vrais embryons. »
Mais la fraude, c'était que c'était pas le vrai stade de l'embryon ou c'était d'associer…
C'était pas du tout des vrais embryons. Il a pris un embryon… mettons, d'une poule, il l'a recopié 7 fois en faisant croire que c'était 7 embryons différents. Il a utilisé son autorité scientifique avec tous les travaux qu'il avait publiés, toute sa notoriété, et il a dit « voici une preuve ultime que l'évolution est vraie
».
Et il a donc été, même à l'époque, les embryologistes de l'époque ont remis en question ses travaux. Ils ont dit « voyons donc, après quelques jours seulement, je suis capable de distinguer un embryon d'une poule et un embryon d'un amphibien, je suis capable de le distinguer dès les premiers jours. Comment? Voyons donc, c'est impossible. »
Mais ça, est-ce que c'est toujours, ça fait partie toujours des icônes dans la théorie de l'évolution?
Ça a pris 120 ans pour les enlever. C'est en l'an 2000 qu'on a retiré des manuels de biologie, des manuels scolaires. Et même, je vous dirais qu'il y en a encore qui l'ont. Donc, pendant 120 ans, on a endoctriné les gens. Et écoutez, c'est majeur. Pourquoi? Écoutez cette citation-là. Moi, ça me met par terre. Darwin affirme, après avoir vu les embryons de Haeckel, la plaquette des embryons, Darwin affirme la chose suivante. Darwin connaît à peu près rien en embryologie, là. Selon moi, l'embryologie est de loin la classe de fait la plus en faveur d'un changement des formes. Darwin regarde ce que son bulldog Huxley et ce que son autre bulldog Ernst Haeckel a publié comme preuve. Il regarde les travaux de Haeckel et dit « Hey, my God, je regarde ça, là. Les embryons, là, c'est l'argument le plus fort. L'argument embryologique est l'argument le plus fort en faveur de ma théorie. » Et il est devant une pure fraude.
Ouais.
Alors, c'est un élément majeur.
Et ce qui nous rappelle que les hommes qui font de la science sont des hommes et que l'homme n'est pas toujours désintéressé, mais que certaines personnes veulent arriver à des conclusions et sont prêtes parfois même à frauder, à transgresser la vérité pour pour y arriver. Alors, il faut pas se dire que parce que quelqu'un a un sarrau et travaille dans un laboratoire avec des microscopes que forcément il est honnête.
Non. L'autre élément majeur, justement, c'est en lien parfaitement avec ce que tu dis, c'est l'homme de Piltdown. L'homme de Piltdown, là, il est né après cette espèce de chasse aux fossiles. Là, qui a commencé, hein, Thomas Huxley qui a parlé de l'évolution des chevaux. Et là, il y a eu la chasse aux fossiles. On voulait découvrir l'homme intermédiaire entre l'homme et le singe. Et il y a eu une découverte qui a été faite non loin de la maison de Darwin, très étrangement, présentée à la communauté scientifique en 1912 par nul autre que le docteur Arthur Smith Woodhart, qui était le conservateur du British Museum. On a présenté à la communauté scientifique ce qui avait été trouvé dans un trou, plusieurs fragments de crâne, une demi-mâchoire et quelques dents. Et on ne parle pas d'un squelette complet, là. Et là, les scientifiques les plus influents de l'époque, Dr. Ray Lankester, qui était professeur de zoologie, directeur du British Museum, Arthur Smith Woodhart, que je viens de dire, Arthur Keith, anatomiste, anthropologue, leader mondial dans l'étude des fossiles humains, William Plain Pycraft, zoologiste en charge de l'ostéologie du Musée d'histoire naturelle de Grande-Bretagne, donc l'étude des os, se penchent tous sur l'homme de Piltdown. Ce crâne qui semble avoir des caractères humains et des caractères de singe, et en déduisent tous de façon unanime, nous avons trouvé la preuve de l'évolution. Le premier homme était britannique. Il y avait cette espèce de guerre aussi à l'époque de où, sur quel continent on va trouver le premier vrai homme qui a donc surgi des singes. Et donc, c'est une fraude. Ce n'est pas eux qui ont fabriqué la fraude, ce sont les amateurs de fossiles qui leur ont amené. On dit dans le magazine Pour la science, citation très intéressante en 96, il dit « Lankester, un de ceux-là, était pourtant le pourfendeur des imposteurs. Il va se laisser berner par l'homme de Piltdown, l'une des plus célèbres fraudes de l'histoire de l'évolution. Pendant 40 ans, les scientifiques croient reconnaître des fragments d'anthropoïdes dans ses ossements mis au jour à une cinquantaine de kilomètres de la maison de Darwin. Ils prétendent avoir découvert les restes du chaînon manquant. Enthousiasmés pour la théorie de Darwin-Wallace, Lankester et ses collègues évolutionnistes acceptent sans aucun esprit critique ce fossile fabriqué de toutes pièces. Décembre 1996, page 17, hein, la version française de Scientific American. Alors, on voit cette espèce d'enthousiasme pour la théorie de Darwin et les plus grands scientifiques de l'époque, les plus grands spécialistes dans l'étude des fossiles vont se laisser berner par ce crâne qui avait été artificiellement oxydé par du bichromate pour reproduire la coloration et l'âge. Hein? L'usure des dents avait été faite par une lime et ça a pris 41 ans pour finalement avouer à la communauté scientifique que l'homme de Piltdown était un faux. On avait associé un crâne humain à une mâchoire d'orang-outan. Ça clôt un peu ma présentation. C'est vraiment une preuve ultime de qu'est-ce que l'enthousiasme pour une théorie peut faire. Ces scientifiques-là, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas des scientifiques. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas fait bien leur travail. Mais à un certain moment donné, ils sont devenus tellement motivés, tellement croyants qu'on leur a apporté sur un plateau ce qu'ils voulaient et ils l'ont pris. Ils ont dit à la communauté scientifique, à tout le monde entier, nous avons enfin la preuve de l'évolution. Et ça s'est passé en 1912, là, hein? Fait que donc, c'est de 1912 à 1950. C'est pas si loin dans le temps. Mm-hmm. Pendant cette période de temps-là, on croyait avoir trouvé les restes et la preuve ultime que l'humain avait évolué à partir du singe. Alors qu'il y a des millions de chaînons manquants. Où sont toutes les transitions entre les reptiles et les oiseaux? Où sont les transitions entre les mammifères terrestres et les mammifères aquatiques? On pourrait en parler pendant des heures de toutes les...
Et on va en parler pendant plusieurs heures encore, je l'espère. En tout cas, Julien, que tu vas revenir. Écoutez, on va devoir arrêter ici. Si vous voulez réentendre donc toute cette série, tous les billets donc qui ont été publiés, toutes les capsules qui ont été faites sur l'histoire de l'évolution sont disponibles sur le site Un héros dans le net. Là, je vais mettre tous les liens pour qu'ils soient accessibles facilement à la même place. Mais donc Julien va revenir un peu plus tard pour continuer à critiquer cette théorie montrait que, bien qu'il y en a qui se gonflent le thorax en prétendant qu'elle est irréfutable, eh bien, on va la réfuter ensemble. Et merci encore, Julien, de ta présence.
Merci beaucoup, Pascal.